BFM Bourse. On refait la séance.
Deux invités pour refaire la séance pendant quasiment un quart d'heure. Aurélien Auton est avec nous, gérant de portefeuille senior chez Swiss Life, banque privée par téléphone. Bonjour Aurélien Auton, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. Et puis Quentin Waro qui est avec nous en plateau. Bonjour Quentin Waro, gérant chez Eleva Capital. Merci également d'être venu en plateau en ce jeudi 9 mai pour refaire cette séance. Séance donc positive avec un secteur aujourd'hui qui a fait l'actualité, Quentin Waro, en Espagne, notamment le secteur bancaire avec BBVA qui perd du terrain, quasiment 5% de baisse ce soir à Madrid, avec une OPA hostile, faut le préciser, sur une autre banque espagnole, Sabadell.
Oui, alors c'est un mouvement, nous on est assez prudents sur les banques en général, c'est un secteur qui a très bien performé depuis deux ans et demi, dans la lignée en fait des hausses de taux initiées par les banques centrales. Donc là, comme on arrive plutôt à la fin de ce mouvement, voire même peut-être à partir du mois de juin, sur une baisse de taux, on est un peu plus prudents sur ce secteur. Après qu'il y ait de la consolidation dans ce secteur, pourquoi pas, surtout dans les banques du sud de l'Europe, il y a beaucoup d'acteurs bancaires, donc peut-être que de la consolidation est nécessaire. Après, on sera assez prudent encore plus sur une OPA qui est hostile, puisqu'effectivement, ça veut dire un processus relativement long, potentiellement une implication du gouvernement aussi à la fin du processus d'OPA, donc effectivement des choses qui peuvent être contrariées. Donc on évitera de s'exposer à ce type d'acteurs.
Donc le secteur bancaire, vous êtes plutôt à l'écart d'une façon globale, générale, en sortant de ce dossier spécifique?
Tout à fait.
Du côté de Swiss Life Banque Privée, Aurélien Auton, quelle est votre opinion sur le secteur bancaire? Il y a quelques minutes, on parlait de BNP. C'est vrai qu'il est sur des plus hauts de la crise financière, au-delà des 70 euros. L'Eurostoxx 50 a pris 40%, l'Eurostoxx 50 banque, bien sûr, en l'espace d'un an.
Moi, j'ai une vision un peu plus positive des banques. Effectivement, on va rentrer dans une dynamique de baisse de taux qui généralement est défavorable aux banques. Mais ce qu'on a quand même constaté lors de cette période de publication de résultats, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de banques, notamment d'Europe du Sud, en Espagne et en Italie, qui étaient en capacité de continuer à faire progresser leur marge d'intérêt, qui est vraiment l'élément clé dans le secteur. Donc je pense qu'il y a encore un potentiel de gain, surtout si on ajoute quand même des valorisations qui sont encore particulièrement déprimées, parce que beaucoup de banques se traitent avec des décotes de 20 ou 30% par rapport à leur actif net, et pourtant elles vont dans les prochains jours et dans les prochaines semaines détacher des dividendes qui vont de 5 à 10%. Donc sur des niveaux de marché qui sont au-delà des 8000 points sur le CAC, je trouve que c'est un secteur de rendement et des côtés qui me paraît plutôt intéressant, surtout pour les banques d'Europe du Sud qui continuent à faire progresser leur marge d'intérêt.
Et quelles sont vos valeurs préférées dans ce secteur?
Vous parliez de si on reste en France, nous on continue à apprécier BNP, qui est le modèle le plus diversifié, même s'il a bien rebondi. Et après, si on va en Espagne, il y a le dossier Banco Santander qui nous paraît intéressant. Banco Santander qui a mis en place il y a quelques mois un plan stratégique qui commence à porter ses fruits sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité, et qui pourtant continue à se traiter avec une décote de 30% sur sa valeur comptable. Donc c'est un dossier qu'on apprécie en Espagne.
Voilà donc pour le secteur bancaire. Autre secteur qui a fait l'actualité aujourd'hui, Quentin Waro, c'est le secteur des semi-conducteurs avec ARM aux États-Unis qui a publié ses résultats. Et puis en Europe, une valeur se distingue très clairement, c'est BE Semi-Conducteur, BESI, c'est comme ça, qui est surnommé dans le secteur en termes de jargon, avec une commande importante qui a été annoncée par le groupe.
Oui, alors c'est une commande qui était, on va dire, pré-annoncée au moment de la publication du résultat du premier trimestre, qui n'était pas encore dans le carnet de commandes. Donc là, ça confirme effectivement qu'il y a bien de la demande. Ce qui est important, c'est que c'est une bonne nouvelle après, on va dire, une série de nouvelles un peu moins positives pour ce secteur, qui est très détenu par les investisseurs. Donc effectivement, les marchés sont très sensibles aux moindres nouvelles et donc sont prêts en fait à prendre des profits si jamais on n'a pas ce qu'on appelle de beat and raise, donc des résultats qui battent les attentes et des compagnies qui viennent relever leur guidance. Donc on avait déjà décalé les attentes de croissance sur le secteur semi-conducteur pour 2024, qui devait être une année de transition avant une année 2025 de forte reprise. Pour Besi spécifiquement, cette commande en hybrid bonding, donc c'est leur nouvelle technologie de packaging de semi-conducteurs. C'est très important parce que ça confirme que dans la partie logique, il y a bien de la demande pour cette technologie de prochaine génération. Maintenant, ce qui va vraiment être clé pour la suite, c'est d'avoir des commandes pour cette même technologie sur la partie mémoire, qui pour l'instant est encore sur d'anciennes technologies, qui répond à une demande très forte de l'intelligence artificielle. Donc, il faut produire rapidement. Donc, on utilise les technologies existantes, mais qui, à terme, devra passer sur cette nouvelle technologie parce qu'elle améliore largement l'efficacité des puces. Donc, c'est nécessaire à long terme.
Donc, vous êtes positif hein, sur cette valeur. C'est à Amsterdam, hein, c'est ça. BE Semiconductor qui gagne donc plus de 3% ce soir à la clôture, au-delà des 130 euros. Autre valeur qui a fait l'actualité, non pas aujourd'hui, mais c'était hier, c'est Alstom hein, qui a gagné plus de 9% à la clôture. Aujourd'hui, il y a quelques prises de bénéfices sur la valeur, puisque vous avez Alstom qui perd un peu plus de 3% à 16,59 euros. C'est des niveaux d'achat, 16,59 euros. Aurélien Auton sur Alstom.
Moi je reste pour le moment à l'écart du dossier. Il y a deux éléments sur la communication d'Alstom d'hier. Il y a la partie restructuration du bilan qui était quand même un des gros sujets chez Alstom. De ce point de vue-là, on voit quand même que les choses vont dans le bon sens avec un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment une augmentation de capital d'1 milliard d'euros. Donc ça va permettre quand même d'éponger une bonne partie des 3 milliards d'euros de dette qu'Alstom avait à la fin de l'année dernière. Et puis le deuxième élément, la deuxième grille de lecture, c'est sur la partie un peu plus opérationnelle, sur lequel à mon avis on manque d'éléments. On sait que au-delà de tous les contrats hein, à marge zéro dont a hérité Alstom de la part de Bombardier, que Alstom a quand même un certain nombre de difficultés d'exécution. On parle notamment de contrats assez importants au Royaume-Uni qui ont du mal à monter en puissance. Donc le temps que moi j'y vois pas plus clair sur ce deuxième aspect-là, sur l'exécution et la baisse de ce risque d'exécution, je préfère effectivement rester à l'écart de ce dossier, qui pourtant a quand même sur le carnet de commandes et sur la visibilité qui est offerte par ce carnet de commandes, des atouts qui sont pourtant pas négligeables.
Quentin Warreau, chez Eleva Capital, vous partagez visiblement le même message de prudence hein, par rapport à Alstom, alors qu'il a certes repris 50% en l'espace de quelques mois, mais par rapport au plus haut historique, c'est toujours très compliqué.
Oui, mais on est vraiment sur des points bas. Alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec l'analyse d'Aurélien, d'autant plus que donc nous, on va faire très attention à la qualité des bilans. Et c'est d'autant plus vrai maintenant en phase de coûts de financement élevés, puisque en fait, ça veut dire que voilà, pour vous refinancer, ça coûte beaucoup plus cher, que les marchés sont beaucoup plus sensibles à ce type d'opération. Et effectivement, là, on a une augmentation de capital, mais effectivement, si la qualité de l'exécution derrière ne suit pas, on n'est pas à l'abri d'une prochaine augmentation de capital prochainement. Sachant aussi que dans cette opération, on a une partie du financement qui se fait par dette hybride. Et ces dettes hybrides sont un peu du financement hors bilan, puisqu'il n'y a qu'une partie qui est comptée dans la dette nette, donc dans les ratios qui sont regardés par les agences de notation de crédit. Mais c'est une dette qu'il faut quand même rembourser, c'est une dette qui coûte cher. Donc c'est aussi un financement qui est un peu entre les lignes et qui est un peu moins clair, je trouve, en termes de restructuration financière que ce qu'on aurait pu espérer par une simple augmentation de capital.
Et après avoir pris quasiment 10% hier, la valeur c'est 3%, beaucoup de spéculation, hein, beaucoup de rachats de shorts et de produits dérivés qui sont positionnés sur ce titre Alstom. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, messieurs, pour mettre en avant des pépites, des valeurs préférées dans ce contexte de plus haut historique. Quelles sont les valeurs que vous avez envie de mettre en avant ce soir, Quentin Warreau?
Alors nous, on aime bien en ce moment une valeur qui s'appelle AAK. C'est une valeur suédoise. Alors c'est vrai qu'elle est à son plus haut en termes de cours de bourse. Par contre, en termes de valorisation, elle reste à des niveaux qui sont particulièrement attractifs puisque le cours de bourse a en fait suivi une très belle progression des résultats. C'est une société qui fait du raffinage d'huile et de graisse végétale à destination notamment de l'industrie agroalimentaire. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est que vous avez sûrement vu que les prix du cacao sont au plus haut. Et AAK, avec ses produits et ses huiles alimentaires, vient pour l'industrie du chocolat en alternative au cacao et au beurre de cacao, qui est donc à des prix extrêmement élevés. Et donc, les sociétés agroalimentaires vont peut-être choisir les solutions de AAK pour reformuler leurs produits. Donc, effectivement, on a un marché qui devrait être particulièrement intéressant pour AAK, qui régulièrement, de toute façon, trouve des nouvelles solutions pour améliorer la qualité nutritionnelle des produits de leurs clients et qui délivrent régulièrement une croissance de ses profits de 10% ou plus.
Aurélien Autant, une idée de valeur pour nos auditeurs téléspectateurs?
Oui, moi j'avais envie de mettre en avant Vinci, qui est un titre qui est à l'équilibre en termes de performance boursière depuis le début de l'année. Moi, j'ai l'impression que le marché sous-estime le changement de profil du groupe. Il y a encore quelques temps, c'était un groupe qui était principalement axé sur les concessions autoroutières. Et là, on a une diversification qui est beaucoup plus importante puisque on est à 25% sur les aéroports, à 25% sur les autoroutes et à 25% sur les énergies. Donc en termes de valeur d'entreprise, un profil qui est beaucoup plus diversifié. Vinci en plus a annoncé il y a quelques semaines un certain nombre d'acquisitions, notamment dans les aéroports. On l'a vu en Écosse, avec toujours l'idée de maintenir une durée moyenne plus longue de son portefeuille de concessions, puisque les concessions autoroutières françaises vont arriver à échéance entre 2032 et 2036. C'est un titre qui a beaucoup souffert au premier trimestre. Alors il y a des raisons, hein, le mouvement des agriculteurs, qui a impacté le trafic autoroutier. Il y a la remontée des taux aussi qui a pesé. Et puis il y a la volonté du gouvernement français de taxer les concessions. Mais pour moi, ça met de côté les qualités du groupe, puisqu'on a quand même des métiers qui sont relativement prédictibles. La valorisation ne reflète pas ces qualités, puisque le titre se paye 13 fois les résultats attendus l'année prochaine et qu'il va générer en trésorerie 9% de sa capitalisation boursière. Pour moi, c'est clairement une opportunité d'achat.
Et ce titre qui gagne plus d'1% ce soir, Vinci, au-delà des 115 euros. Merci beaucoup Aurélien Autant de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans BFM Bourse, gérant de portefeuille chez Swiss Life Banque Privée. Merci également à Quentin Ouarraud, gérant chez Eleva Capital. Et donc, votre pépite, elle n'est pas à Paris, elle est à Stockholm, AAK.